La colère ne retombe pas à Hong Kong. Cela fait déjà une semaine que la population descend dans la rue. Hier, ils étaient encore des centaines de milliers à défiler, vêtus de noir, peut-être 2 millions, comme l'assure l'opposition. La population a pourtant réussi à obtenir la suspension du projet de loi controversé, un texte qui devait faciliter les extraditions vers la Chine. La chef de l'exécutif s'est également excusée, mais visiblement, ça ne suffit pas. Bonjour Jean-Philippe Béja.
Bonjour.
Vous êtes sinologue, directeur de recherche émérite au CNRS Série Sciences Po. Que réclament aujourd'hui les manifestants? Ça va bien au-delà de ce simple texte, j'ai l'impression.
Oui, bien évidemment. On peut dire que les concessions de Carrie Lam, la chef de l'exécutif, sont venues trop tard et sont trop peu. Alors, si vous voulez, très concrètement, on demande non pas la suspension, mais la suppression de cet article sur l'extradition et aussi maintenant le retrait de la qualification des affrontements de mercredi en émeute, ce qui a un sens très concret. Il y a 11 personnes qui ont été arrêtées et à partir du moment où on parle d'émeute, les condamnations sont de 10 ans de prison. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement grave pour les quelques jeunes qui ont été arrêtés. Mais bien évidemment, on arrive surtout à une explosion du ras-le-bol de la population. Depuis 2 ans environ, mais surtout depuis la révolution des parapluies en 2014, les autorités n'ont pas bougé, ni sur la réforme politique. Elles ont aussi lancé un certain nombre d'offensives contre l'opposition, puisque 6 députés élus directement au suffrage universel ont été invalidés. Un certain nombre de mesures, il y a eu les enlèvements des éditeurs par la sécurité chinoise. Tout cela montre que la Chine est de plus en plus intervient de plus en plus directement dans les affaires de Hong Kong. Dans ces conditions, personne n'avait rien dit et sans doute les autorités chinoises et la chef de l'exécutif étaient certains que Hong Kong était effectivement une cité économique, que les affaires politiques n'étaient pas très importantes. Or, évidemment, c'est le contraire qui vient de se démontrer avec l'énorme manifestation déjà de dimanche dernier qui avait réuni 1 million de personnes. Et là, 2 millions de personnes, rappelons-le, ça fait 30% de la population de Hong Kong. Ça ferait en France à peu près 20 millions de personnes.
Vous pensez que ces mobilisations inquiètent Pékin ?
Alors, elles sont très gênantes pour Pékin. Elles viennent à un très mauvais moment. Vous savez que ce sera bientôt la réunion du G20, le 20 juin. Et Xi Jinping, qui est en plein dans la guerre économique avec les États-Unis, devrait rencontrer Trump. Évidemment, si Hong Kong est en pleine révolte, ça pose un problème et ça affaiblit naturellement sa position. Ce qui explique d'ailleurs, dans une certaine mesure, qu'ils aient aussi conseillé fortement à la chef de l'exécutif de suspendre son projet. D'autre part, il y a un petit peu d'inquiétude du point de vue de la contagion possible pour Pékin. Mettons-le à la place de Xi Jinping, si un énorme mouvement populaire permet de faire reculer les autorités, pourquoi est-ce que ce ne serait pas possible en Chine? Alors bien sûr, il s'agit d'un système complètement différent, mais il y a une grande inquiétude chez les dirigeants chinois qui craignent la contagion.
Et il y a une crainte aussi que l'opposition profite de ce mouvement pour s'organiser davantage. Aujourd'hui, quelle place elle a l'opposition à Hong Kong?
Écoutez, l'opposition, il faut bien voir, les démocrates, depuis qu'il y a des élections à Hong Kong, c'est-à-dire depuis 1991, ont toujours obtenu environ 60% des voix. Le problème, c'est que le système de Hong Kong ne leur permet pas d'obtenir la majorité au Conseil législatif, puisqu'il y a près de la moitié des membres qui sont nommés. Donc, si vous voulez, organisée, elle l'est, parfois divisée, mais évidemment, avec des mouvements comme celui-là, elle se réunifie. Il y a bien des chances que, lors des élections locales, en novembre et lors des élections législatives l'année prochaine, il y ait une forte présence de l'opposition. Donc bien sûr, c'est un échec très important à la fois pour les autorités de Hong Kong et par ricochet pour la Chine.
Quand on regarde les images des manifestations, c'est très impressionnant. On a l'impression qu'il y a quasiment tout Hong Kong qui est dans la rue. C'est une impression trompeuse. La Chine a des soutiens parmi la population ?
Oh ben, un certain nombre de soutiens, elle en a, mais enfin, là, vous avez quand même... Quand un tiers de la population descend dans la rue, ça veut dire que toutes les familles ont un membre qui est descendu. Donc, bien sûr, il y a eu une pétition de soutien à l'article qui a été signée par 900 000 personnes, mais une signature, c'est une chose, descendre dans la rue, c'en est une autre. Je crois que là, les autorités de Hong Kong ont reconnu que toute la population était contre cet article, et d'ailleurs, elles ont reculé. Maintenant, la question, c'est la demande de démission de Carrie Lam, la chef de l'exécutif, qui est au cœur de ces manifestations. Est-ce qu'elle va pouvoir tenir? Vous savez que le 1er juillet, c'est la fête nationale de Hong Kong, c'est le retour de Hong Kong à la mère patrie, donc on a encore un dimanche et une grande manifestation possible le 1er juillet. Je crois que ça va être très difficile de tenir dans ces conditions.
Mais c'est elle qui va prendre la décision ou c'est Pékin qui va lui dire tu restes ou tu démissionnes?
Disons qu'elle prendra la décision en accord avec Pékin et que la voix de Pékin sera très importante. Je crois qu'elle n'a plus, elle a plus beaucoup d'autonomie parce qu'elle est allée au-devant d'un énorme échec et ça, Pékin ne lui pardonnera pas. En même temps, Pékin ne va pas reculer directement sous la pression de la rue. Donc moi, je ne suis pas certain que la démission interviendra rapidement, mais peut-être la suppression du texte.
Jean-Philippe Béja, Hong Kong bénéficie en ce moment d'une semi-autonomie qui va durer normalement jusqu'en 2047. Alors je sais que c'est toujours très difficile de se projeter dans l'avenir, mais comment imaginez-vous que les choses vont se passer en 2047? Est-ce que certains demandent à renégocier pour prolonger le statut? Comment ça se passe aujourd'hui?
Alors d'abord, on ne sait pas ce que sera la Chine en 2047 et c'est pas évident que le Parti communiste sera toujours au pouvoir à Pékin. Donc ça, déjà, c'est l'inconnu principal. Mais le mouvement des parapluies qui a eu lieu il y a 5 ans montrait justement cette inquiétude des jeunes de Hong Kong qui, eux, en 2047, seront dans la force de l'âge. Donc eux-mêmes s'inquiètent de cet avenir et c'est pour ça qu'on a vu arriver un mouvement localiste qui demande une plus grande autonomie pour Hong Kong et une autonomie qui serait définitive. Alors c'est quelque chose qui gêne énormément Pékin. Pékin était certain qu'avec la nouvelle génération, on aurait des gens qui seraient beaucoup plus favorables à la Chine, c'est-à-dire dans l'esprit de Xi Jinping au Parti communiste chinois. Et ce qui se passe, c'est que c'est exactement le contraire. On a vu mercredi une manifestation qui était essentiellement une manifestation de jeunes. Hier encore, les jeunes étaient très présents. Donc si vous voulez laisser les choses se faire, passer par l'éducation, par la propagande, qui est imposé dans l'ensemble du pays, ça ne marche pas. Donc, que faire pour Hong Kong, pour Pékin? C'est extrêmement difficile. Hong Kong est de plus en plus conscient de son identité et la défend de plus en plus fort.
Merci Jean-Philippe Béja. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, au Centre de Recherche Internationale de Sciences Po. Vous étiez l'invité du 5-7.